Le dernier moment de ces trois journées passées à Florence avec Philippe Sellers, à la recherche de Dante et surtout du sens profondément contemporain de la Divine Comédie, de la parole qui y est inscrite, nous l'avons passé dans l'un des lieux qui est bien sûr un des plus célèbres au monde, puisqu'il s'agit du Palais des Offices qui abrite le musée, et aussi les archives d'État de Florence, ces archives qui sont un peu la mémoire de la ville. Le professeur Pansini, qui en est le responsable, nous recevait dans son bureau, où il avait rassemblé tout exprès pour nous les seuls documents écrits, aujourd'hui connus de l'époque, où figure le nom de Dante Alighieri.
Les archives d'État de Florence contiennent non seulement la documentation de la ville de Florence, mais aussi la documentation de tout l'État toscan, du Grand-Duché de Toscane, du 1726 jusqu'à la fin du Grand-Duché, en 1859. Les archives d'État de Florence ont de la documentation de l'ancienne République du XIIe siècle. Dans les archives de la République, il y a plusieurs documents qui concernent la vie de Dante. Et surtout les plus connus sont la condamnation de Dante dans le Libro del Chiodo. Comme on dit en Italie, c'est un registre, un parchemin du fond des capitani di parte guelfe, qui était un bureau, un tribunal qui a été institué pour condamner les gibelins. Et après, il a fonctionné comme un tribunal qui condamnait tous les adversaires, les ennemis du gouvernement de Florence. Nous avons aussi des documents sur la participation de Dante au Conseil de la République de Florence. Et nous avons aussi d'autres documents qui concernent la vie politique de Dante, mais aussi la vie politique de Florence. J'ai ici, je voudrais montrer la pace del Cardinal Latino, qui est un traité entre les guelfes et les gibelins, et le cardinal Latino avait été envoyé pour la pacification de la ville. Et le traité fut signé, mais il n'y eut pas de pacification parce que les luttes à l'intérieur de la République continuaient encore et les guelfes se divisaient en blanc et noir. Alors la vie politique de Florence a été dominée par ces contrastes avant le XVe siècle. Et après, on voit la montée de la maison des Médicis qui ont dominé Florence comme citoyenne dans tout le XVe siècle. Et après, dans le XVIe siècle, après 1532, ils ont été nommés ducs de Florence.
Alors nous allons maintenant vers ce Libro del Chiodo, ce livre du clou, qui est un document capital, rarissime, où sont donc portés les actes du tribunal qui fut appelé à prononcer la condamnation de Dante à l'exil. C'est un gros registre en cuir brun, sur lequel est incrusté précisément un clou en métal, en fer. La signification symbolique de ce clou est une des nombreuses énigmes du temps qui vraisemblablement ne sera jamais résolue. En voici au moins trois interprétations parmi les plus sérieuses, données et commentées par Aldo Rossi, Giuseppe Pansini et Giovanni Tempesti, tous trois universitaires toscans, bien entendu parfaitement familiers de Dante pour y avoir consacré la plus grande partie de leurs travaux.
Non, mais j'ai vu un clou tout à fait pareil pour signer des tables et pour écrire et pour effacer. Peut-être c'est un instrument d'écriture.
Je pense qu'on pourrait aussi penser que le clou est une référence au clou de la croix de Jésus-Christ, parce que les guelfes s'estimaient les protecteurs du pape, les partisans du pape, de la religion, tandis que les gibelins étaient les partisans de l'empereur qui était accusé par les guelfes d'être contre le pape et contre le chef de la chrétienté.
Une autre hypothèse serait donc celle de Monsieur Tempesti, qui est écrivain.
Je pense que c'est un livre de condamnation. Alors, la condamnation, par excellence, c'est d'être pendu, n'est-ce pas? Et on pendait de préférence à Florence, pas à une fourche, mais à un clou. Alors, c'est-à-dire, ce sont les livres des pendus. Alors, être mis à un clou, c'est-à-dire être pendu, c'est ça l'hypothèse.
Nous allons ouvrir le livre à la page qui nous intéresse au premier chef, à savoir la page où sont notés tous les condamnés de cette année-là où Dante a vu sa carrière politique pratiquement terminée et mise en échec par la ville de Florence, qui le condamnera à l'exil. Alors évidemment, il est très difficile de lire sur ce parchemin, il est écrit en latin, et heureusement nous avons à côté un autre livre qui reproduit exactement, mais de façon peut-être plus claire, plus lisible, le contenu exact de ce parchemin.
Florence, le 10 mai 1302. In nomine Domini, amen. Ec est quaedam condemnatio, sive condemnationis sententia facta, lata et promulgata per nobilem et potentem militem dominum cantem de Gabriellibus de Eugubio, honorabilem potestatem civitatis Florentiae, contra infrascriptos homines et personas sub examini sapientis et discreti viri Pauli de Eugubio, iudicis ad officium inquirendim et procedendi contram committentes baracterias et lucra illicita deputati. C'est l'accusation précise contre Dante, baratteria et mauvaise gestion de l'argent public. Andream de Gherardinis, etc. Dantem Alighieri. Ils sont tous les personnages qui ont été condamnés et ils sont tous des personnes maintenant inconnues. Dante, peut-être dans l'accusation spécifique tout à fait innocent, a eu des précédents qui n'allait pas dans une certaine générosité par rapport aux adversaires politiques. Il avait contribué à la condamnation de ses adversaires. Il ne s'était pas opposé à la condamnation d'une famille adverse. Il savait que les preuves n'étaient pas suffisantes, mais il avait donné son assentiment. Alors peut-être il y a eu là une vengeance d'une activité politique qui était tout à fait réaliste, vous savez.
Il y a un point qui nous étonne particulièrement, c'est la condamnation à laquelle il a participé de son ami, le poète Guido Cavalcanti, car si Cavalcanti a connu l'exil, c'est en grande partie à cause de Dante. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Et c'était un fait, je pense, tout à fait politique. C'est-à-dire, Dante était loyal par rapport à sa partie politique. Il faisait ce que la partie politique décidait, n'est-ce pas?
Je voudrais maintenant, Monsieur Pansini, que nous allions vers ce livre où sont transcrits un certain nombre d'interventions de Dante au Conseil des Cent, et entre autres, une intervention qui nous surprend un peu, mais qui était intéressante à la fois pour l'histoire de Dante et pour l'histoire de la ville, à savoir ce fameux refus de Dante d'accorder au pape les soldats, les cuirasses, enfin un matériel humain et d'équipement pour faire la guerre, et contre lequel donc Dante s'est violemment élevé. Nulle part ailleurs on ne peut lire ce texte dans sa version originale. Tous les actes étaient rédigés en latin. Si nous lisons cet extrait, c'est qu'il est aussi important pour comprendre un certain nombre de comportements de Dante. Et on comprend peut-être beaucoup mieux, à la faveur de cette anecdote, appelons-la une anecdote, avec tout le respect que l'on doit à Dante et à l'histoire, on comprend beaucoup mieux pourquoi Boniface VIII est situé dans l'enfer de la Divine Comédie. Peut-être.
C'est une réunion du conseil del Cento du 9 juin 1301 à Florence. Dans cette réunion, on discutait sur une demande du pape qui avait été faite par le cardinal Matteo da Acquasparta de donner centum militibus, c'est-à-dire 100 soldats, pour aider le pape dans ses guerres. Et alors, Dante conseillait le gouvernement de refuser cette aide. Dante Alighieri, consuluit, quod de servizio facendo domini pape, nihil fiat.
Est-ce qu'on est en mesure de savoir aujourd'hui si ce refus, si cette intervention de Dante a été acceptée à l'unanimité par le Conseil des Saints? Est-ce que le Conseil a suivi derrière lui?
Non, parce qu'il semble que des autres ont donné un avis favorable, oui. Mais je voudrais faire une espèce de résumé des traces dantesques que nous avons ici et sont les celles qui sont vraiment authentiques. Parce que si vous traversez la ville de Florence, vous trouverez seulement des choses un peu fausses, n'est-ce pas? Seulement ici, il y a des traces évidentes et réelles. Et vous voyez que c'est très peu. De direct, il n'y a rien. C'est un verbal qui peut-être pourrait être autorisé, n'est-ce pas? Peut-être Dante a fait une intervention qui n'est pas dans cette ligne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je crois que la trace humaine de Dante à Florence est très, très douteuse et, je pense, disparue. C'est-à-dire, Dante n'a laissé pratiquement des traces. Ici seulement on donne la voix de Dante dans ses interventions qui on résume dans ses libri Fabarum. Et ce sont très, très résumés, n'est-ce pas? Mais pour le reste, je pense que Dante est disparu dans la légende, dans sa même vie. Dans l'état où il a vécu, il n'a laissé rien. C'est-à-dire, il a été condamné. Peut-être on a brûlé tout ce qui lui concernait. Mais c'est un des pays citoyens de la vie de la Florence du temps dont on n'a rien. On n'a rien de direct. On n'a pas un signe sur un registre, sur un livre. Il n'y a rien. On connaît des autographes de plusieurs des personnes de la génération antérieure, n'est-ce pas? Mais de lui, tout a disparu. Peut-être en cherchant avec hardiesse, avec de la chance, on pourrait trouver quelque chose. Mais ils sont désormais 6 siècles, on n'a trouvé rien. Personne a trouvé des choses tout à fait choquantes sur la présence de Dante. Dante pourrait être un homme de fumée, n'est-ce pas? Un homme presque une invention, comme tous les grands de l'histoire. Homère, Dante, Shakespeare.
Thank you. Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per più anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del bello vile ov'io dormi agnello. Mimico ai lupi che li danno guerra, con altra voce ormai, con altro vello, ritornerò poeta ed ir sul fonte.
Dante et Florence, troisième et dernière journée, Philippe Solers, Françoise Malétra. Les textes en français étaient lus par Daniel Mesguich, en italien par Faustina Carelli, 10 ans, et Paola Carelli, 11 ans, florentin, Sandro Rovelli, 7 ans, et Enrico Bozzelli, 9 ans, toscan de Trespiano. Musique, Monteverdi, Berio. Prise de son, Jean Daniel. Réalisation, Christine Berlamont.